et de tout le monde occulte. L'école théosophique, que ce soit la loge unie ou l'école théosophique, bon, il y a deux, trois branches, se méfie bien sûr des expériences contemporaines de régression. Elle a raison de se méfier. Elle se méfie aussi des expériences sous hypnose. Elle se méfie des déséquilibres, du voyeurisme aussi, qui existe. Hein. Il y a un voyeurisme assez pervers qui actuellement fait que beaucoup de gens ont envie de savoir, hein, et vont fouiller avec des méthodes pas toujours très blanches pour savoir ce qu'ils ont été ou ce qu'ils ont fait. Et là, la confusion est grande, bien sûr, entre le monde psychique et le monde spirituel, à la fois par les moyens qu'on utilise et par les informations que l'on reçoit. Et le déséquilibre est souvent à la clé. Donc il faut être très très prudent, très très prudent. La pensée indienne, elle, après la pensée théosophique, puisque c'est assez proche, est très claire sur le plan de la réincarnation. C'est une affirmation qui est répétée, non pas à toutes les pages, mais peut-être à tous les grands chapitres des Védas. Et je dois avoir quelque part un petit passage parmi les quelques livres que j'ai amenés, qui sont simplement des traductions directes de la Gita. Voilà une traduction de la Srimad Bhagavatam. L'être vivant qui a maintenant reçu un corps matériel à cause de ses activités intéressées antérieures peut mettre un terme aux conséquences de ses actions au cours de cette vie. Toutefois, cela ne veut pas dire pour autant qu'il soit libéré de l'enchaînement au corps matériel. L'être vivant reçoit un certain type de corps. En agissant avec ce corps, il en crée un autre. Du fait de son ignorance grossière, il transmigre ainsi d'un corps à l'autre par l'intermédiaire du processus des morts et des renaissances successives. Un petit peu plus loin, on trouve aussi seules les grandes âmes, qui sont des yogis et des dévots, du fait qu'elles ont atteint la perfection suprême, ne reviennent jamais plus dans ce monde transitoire où règne la souffrance. La loi du karma et de la réincarnation sont tellement bien ajustées qu'à la mort de chaque corps matériel, la nature a déjà prévu un autre corps convenant tout à fait au karma de l'âme et dans laquelle elle pourra renaître. Etc., etc. Voyons un peu du côté du Tibet. Je vous ai parlé du Dalai Lama tout à l'heure. Disons quelques mots quand même du livre des morts tibétains, le Bardo Todol, qui est d'une origine assez floue, puisqu'il reprend des textes traditionnels qui sont très 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 anciens, qui ont quelques milliers d'années, et que sa réalisation la plus concrète, disons sa codification, est autour du XIVe siècle. Jung, qui est peut-être le père de la psychologie des profondeurs, le père de la psychologie transpersonnelle que vous connaissez, disait du Bardo Todol, c'est l'une des œuvres majeures de la pensée métaphysique humaine. C'est un véritable parcours initiatique de l'être entre deux vies. C'est cela le Bardo, l'entre deux vies. On y définit très très clairement toutes les étapes que va rencontrer l'âme. Et on peut dire en quelque sorte que on apprend à mourir. On apprend en détail et on fait des répétitions de sa mort, de manière à être outillé clairement, lucidement, sur les plans que l'on va rencontrer, les êtres que l'on va rencontrer, les épreuves que l'on va rencontrer, et ne pas errer, ne pas perdre de temps dans le bardo. Il y a, d'après le bardo Todol, 49 jours importants, 49 jours de transmigration, et un groupe de lamas, pendant les 14 premiers jours, est en prière et en méditation, pour la première étape, le premier bardo qui dure 14 jours. Trois jours importants, bien sûr, sur le plan éthérique, on l'a vu, c'est le premier décrochage. Puis, donc, ces 14 jours de prière collective. Ensuite, il reste un seul lama au chevet du défunt qui le veille, qui le prie, qui l'accompagne jour et nuit et qui lui parle des divinités qu'il va rencontrer, mais aussi des monstres qu'il va rencontrer, de tous les plans supérieurs qu'il va rencontrer et en permanence, en le guidant, en le ramenant à la lumière, en le ramenant à sa foi, en lui demandant de prendre refuge dans le Bouddha, jusqu'à finalement parvenir au miroir du karma qui correspond à la pesée des âmes dont parlaient les Égyptiens. Il y a là d'ailleurs de troublantes similitudes entre le livre des morts égyptien et le livre des morts tibétain. Quelques autres témoignages m'ont semblé intéressants. Jean-Louis Siemens, qui a écrit « Mourir pour renaître » chez Albin Michel et qui est un enseignant en biophysique à l'Institut Claude Bernard. C'est un docteur, un ingénieur, un docteur en sciences, mais c'est aussi un théosophe chrétien. Il dit quelque part « La réincarnation oblige à ouvrir les frontières entre la science et la spiritualité. » Ça, c'est très contemporain, ça. Le hasard n'existe pas. Jung connaissait cette entité de lumière du bardo, qui n'est autre que le moi supérieur, le soi, l'être transpersonnel. Avant la fin du siècle, un nouveau modèle de pensée globale, intégrant la vision spirituelle, va s'imposer. Intéressant de voir l'opinion des hommes de science quand même. Robert Amadou, que vous connaissez bien, qui est un philosophe et un théologien fameux, a été interviewé dans une revue spéciale, dans un numéro spécial de L'Autre Monde, qui est une revue que vous connaissez, et il y a un numéro qui s'appelle Spécial Réincarnation, qui est assez intéressante. Et on lui demande de faire un panorama historique, et c'est vrai qu'il retrouve, bien sûr, les influences de différentes sociétés, les unes sur les autres, en partant de l'Égypte, l'Égypte, les druides, les celtes, l'Égypte influençant la Grèce, Pythagore. Et puis là, on s'aperçoit, c'est vrai, que Pythagore, Hérodote, Plutarque, Jamblic, Plotin, Virgile, Platon, et bien d'autres, bien d'autres avant Pythagore, puisque au VIe siècle avant Jésus-Christ, un certain Phéréside parlait déjà de la réincarnation très clairement. Donc, Amadou confirme cette réalité sur le plan historique au moins, et il en confirme aussi que les racines chrétiennes, en tout cas judéo-chrétiennes, qu'est la Kabbale, c'est-à-dire le livre secret, le livre initiatique qui permet de décoder plus en profondeur l'enseignement biblique. On retrouve donc dans cet enseignement kabbalistique les traces de la réincarnation, avec deux citations intéressantes, l'une dans le Talmud, l'autre dans le Zohar. Dans le Talmud, l'âme d'Abel passa dans le corps de Seth et de là dans celui de Moïse. Donc déjà la notion très très claire d'un suivi là, entre Abel, Seth puis Moïse. On trouve dans le Zohar, toutes les âmes sont soumises aux épreuves de la transmigration. Les renaissances permettent aux hommes de se purifier. Trouvez cette citation dans Métempsychose, réincarnation et survie de Daniel Hermert. Amadou nous dit aussi que chez les gnostiques, auxquels s'apparentent les pères de l'Église et les chrétiens peut-être les plus puristes des 2-3 premiers siècles après Jésus-Christ, on fait à l'époque un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange culturel judéo-gréco-chrétien qui incarne la réincarnation. Et parmi les pères de l'Église, un certain nombre d'auteurs sont à connaître. On entend par pères de l'Église les véritables piliers de l'enseignement chrétien pour toute notre civilisation. C'est Origène qui est particulièrement concerné. Et Grégoire de Nice aussi dit au IIIe siècle, il y a nécessité de nature pour l'âme immortelle d'être guérie et purifiée, et qui, si elle ne l'a pas été dans sa vie terrestre, la guérison s'opérera par les vies futures et subséquentes. Saint Jérôme, un autre père de l'Église, IIIe siècle, dans ses commentaires, dit qu'on enseigne secrètement, depuis les temps les plus reculés, et seulement aux futurs officiants, c'est-à-dire aux futurs prêtres, la doctrine de la réincarnation. On comprend déjà mieux là qu'une partie de la société seulement ne soit au courant. On sait que saint Paul a toléré la réincarnation clairement. Clément d'Alexandrie, IIe siècle, défendit la réincarnation puisqu'elle était autorisée par saint Paul, de sa propre bouche. et comme une vérité religieuse transmise à l'époque par toute la tradition hébraïque. Origène, qui était lui-même élève de Clément d'Alexandrie, dit quelque part « Pour comprendre le louvoiement de l'âme entre le bien et le mal, il est suffisant d'en chercher les causes dans une naissance antérieure à la naissance actuelle corporelle. » Et puis, les choses ont viré au vinaigre. Le Concile de Constantinople, en 553, donc, a trouvé que, pour des raisons politiques, pour des raisons philosophiques, la chose était trop grosse et risquait de faire paresser un peu les chrétiens, qui se disaient, bah, puisqu'on a plusieurs vies, c'est pas la peine de s'en faire. Les feux de l'enfer sont loin, je m'en sortirai la prochaine fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce concile de Constantinople n'a jamais nié, dans aucune bulle papale, on ne trouve la négation de la réincarnation. On a simplement demandé de ne pas en parler. On a clairement exclu les choses du dogme canonique chrétien. On n'a nulle part déclaré que c'était hérésie. On n'a nulle part déclaré que c'était faux. Le grand Edgar Cayce, qui a confirmé énormément de choses et dont je vais vous parler tout à l'heure, a dit quelque part, dans l'une de ses lectures, il a précisé comment les choses s'étaient passées à Constantinople. C'est extrait d'un des trois bouquins de Dorothée Cochelin-Bismont, que vous connaissez, L'univers d'Edgar Cayce, aux éditions Lafon. Pour la réincarnation, dit-elle, le tournant fatal, c'est le VIe siècle. À cette époque, l'Église, alliée à l'État, a perdu en sainteté ce qu'elle a gagné en pouvoir politique. L'impératrice Théodora veut être divinisée après sa mort, comme les anciens empereurs romains. Mais une chose la gêne, les enseignements d'Origène et des pères de l'Église, le grand spécialiste chrétien de la réincarnation. Selon eux, ceux qui ont assassiné leur prochain devront se réincarner pour payer leur crime. Or, Théodora a du sang sur les mains. Origène est sa bête noire. Heureusement, il est mort depuis longtemps. L'empereur Justinien, époux de Théodora, réunit donc en 553 le deuxième concile de Constantinople, dont je viens de parler, pour condamner une série de propositions tirées d'Origène et des pères de l'Église. Le pape et les évêques, morts de peur, signent et votent tout ce qu'on leur demande. Le terrible couple impérial a déjà fait assassiner au moins deux papes et quelques évêques, sans compter le menu fretin ecclésiastique. Mais ces décrets promulgués sous la pression ne peuvent qu'être nuls du point de vue canonique. De plus, il faut remarquer que ce concile, pas plus qu'aucun autre, n'a condamné la réincarnation en soi. Ont été condamnés en 553 seulement des propositions se rapportant à la réincarnation. Ce succès politique impérial eut pour conséquence une révision déchirante des évangiles, d'où toute mention de la réincarnation fut effacée. Et voilà pourquoi elle a disparu de nos catéchismes depuis le VIe siècle. Donc ces recherches sont purement historiques, il ne s'agit pas des visions d'Edgar Cayce. Edgar Cayce l'a confirmé, mais Dorothée Cochelin-Bismont l'a retrouvé sur le plan historique. C'est quand même intéressant, moi, je trouve. Alors, conseil de Constantinople, et puis conseil de Nicée, vous avez entendu parler de celui-là aussi. Eh bien, Daniel Hermert, dans « Métempsychose, réincarnation et survie », ce bouquin dont je vous parlais tout à l'heure aux éditions Vernois Famoux, 82, a noté que dans ce concile de Nicée, on a modifié rien de moins que le texte du Credo. Alors, certains vont dire que c'est une erreur du copiste. C'est quand même intéressant que l'erreur tombe juste sur un mot. On dit quelque part dans le credo, je crois en la résurrection de la chair. Eh bien, le texte original était en fait, je crois en la résurrection en la chair. Ça change tout. En une chair nouvelle. En une nouvelle demeure pour l'âme. C'est quand même une deuxième bavure intéressante dans l'histoire de l'Église. puisqu'on parle d'homme d'église, on a des témoignages intéressants. Le cardinal Mercier écrit dans son manuel de psychologie, c'est un théologien, un cardinal catholique, il écrit: en ce qui concerne la doctrine de la réincarnation, je ne vois aucun motif pour lequel je la tiendrai pour fausse. Un autre cardinal, Daniel Lou, dans son livre La survie après la mort, dit: si je n'étais pas catholique, la thèse de la réincarnation me serait très sympathique. Elle reflète la pensée de l'Inde et celle de Platon. Elle serait séduisante, en effet. Il est séduisant, en effet, de penser que le destin de l'âme se poursuit à travers des mondes successifs. Et ce qui a pu ne pas être réussi dans une première existence pourra l'être au cours d'une suivante. Ainsi, en nous réincarnant, une possibilité nouvelle nous serait donnée de nous élever plus haut. Ces vues étaient celles d'Origène et des pères de l'Église, qui fut un des plus grands génies de la théologie. Mais Origène n'a pas été le seul théologien à croire en cette réalité. Saint Jérôme, Saint Augustin, Clément d'Alexandrie, Saint Grégoire, Saint Justin, Saint Hilaire et beaucoup d'autres. La mentalité de l'occidental, plus que jamais tournée vers les techniques, ça c'est la conclusion de la page, et le progrès matérialiste, détourne bien sûr l'opinion de cette pensée réincarnationniste. Pourtant, Pythagore, Socrate, Platon, Cicéron, Ovide, Sénèque, Paracels, Leibniz, Goethe, Wagner, Voltaire, Victor Hugo, Balzac ont apporté la preuve que cette préoccupation n'était pas étrangère à notre condition humaine. Somerset Maugham a écrit: j'aime la religion des hindous à cause de l'enseignement qu'elle donne à la réincarnation. Cette doctrine est la seule explication acceptable par l'intelligence humaine. Des autorités religieuses, donc, et nous connaissons personnellement un grand prélat qui a été pendant de nombreuses années le bras droit de Pie XII. Et nous savons qu'il a une connaissance et une foi parfaite en cette théorie réincarnationniste. Je ne cite pas son nom parce qu'il est vivant et il nous touche assez près. Alors, penchons-nous un petit peu maintenant sur le Nouveau Testament. Est-ce qu'on retrouve dans les Écritures des indices clairs, sans ambiguïté, que Jésus connaissait bien sûr, était hautement initié à cette connaissance? Omra Mekhaïla Ivanov a écrit beaucoup de choses sur les évangiles, sur les interprétations ésotériques de l'évangile, et on trouve toujours dans ce petit livre, L'homme à la conquête de sa destinée, différents chapitres, différents rappels. Et avec d'autres auteurs, j'ai retrouvé 5 ou 6 ou 7 citations qui m'ont semblé vraiment importantes à vous donner. Vous vous souvenez, même si votre lecture biblique est ancienne ou partielle, que quelque part, le peuple et Jésus, le peuple et les disciples, pardon, demandent au maître Jésus: mais Rabbi, on demande qui tu es. Jésus, pardonnez-moi, qui dit-on que je suis? Voilà. Jésus demande à ses disciples: quelle est l'opinion du peuple sur moi? Et la réponse est immédiate: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. À mon avis, pour laisser passer une bavure pareille, les prêtres conciliaires de Constantinople n'avaient pas leurs lunettes. C'est pas possible. C'est très ambigu, une phrase comme ça. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Dès le départ, avec une citation telle que celle-ci, on pourrait s'arrêter là. C'est d'une telle évidence. En toute clarté, la population à l'époque connaissait cette loi de la réincarnation. Et puis l'histoire de l'aveugle. L'aveugle né, vous savez, cet aveugle de naissance. Jésus, ses disciples, la foule passent près de lui. Et les disciples demandent à Jésus: mais maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Déjà, la question contient notre conclusion. On savait donc à l'époque que s'il y avait péché précédent, on pouvait renaître aveugle. ou bien prendre la faute des parents. C'est quand même une connaissance intéressante. Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc, il admettait qu'il y avait cette loi de la transgression des lois qui amenait des conséquences fâcheuses, admises par tous les Hébreux, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Or, quelle est l'œuvre de Dieu qui va être manifestée en lui ? Le miracle, la guérison. C'est-à-dire pour que je le guérisse, pour que je fasse grandir la foi du peuple autour de moi. Pour qu'il soit un support de foi et qu'on retrouve son image jusqu'à aujourd'hui dans les Écritures. Troisième argument, troisième citation. À un moment, dans le Nouveau Testament, Jésus apprend que Jean-Baptiste vient d'être emprisonné. Et le texte dit, « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira en Galilée. » Rendez-vous compte, le lien qu'il y avait entre Jésus et Jean. L'émotion qui aurait pu sortir, ne serait-ce que par une petite phrase, un petit mot, l'intérêt qu'il aurait pu y avoir, éventuellement même la démarche qu'aurait pu faire Jésus pour le libérer. Non. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira en Galilée. Ça veut dire quelque part qu'il ne se préoccupe pas de cette histoire. Il sait que c'est la suite de l'histoire de Jean. Il sait que c'est bien et qu'il n'a pas à intervenir. On va voir pourquoi. Puis Jean est décapité sous l'ordre d'Hérode. Et après la transfiguration, les disciples demandent au maître, Rabbi, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir, premièrement? C'est vrai qu'on trouve cela dans les Écritures. Et Jésus répond, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous le dis, en vérité, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est limpide. Et des fois qu'on n'est pas compris, le texte continue. Immédiatement, les disciples comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. C'est écrit. Et dans le même passage biblique, on dit, Jésus rajoute, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu et entendu. » Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Jésus donne l'ordre, en quelque sorte, à ses disciples et à ceux qui vont écrire les évangiles de ne pas parler de la réincarnation. C'est comme si Jésus savait que pour la culture occidentale, ce n'était ni utile ni juste, jusqu'à peut-être notre époque actuelle. L'ensemble des chrétiens n'avait apparemment pas du tout besoin de savoir cela. Et bien avant, dans les Écritures, quand un ange apparaît à Zacharie, père de Jean-Baptiste, pour lui annoncer que Élisabeth, sa femme, qui était stérile, allait donner naissance à un fils. L'ange dit, il marchera devant Dieu, en parlant de Jean-Baptiste, l'enfant, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Déjà, le prophète, disons la prophétie angélique, avait prévu que cet enfant allait recevoir l'âme d'Élie. On retrouve ailleurs, dans Matthieu 11, et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir, que celui qui a les oreilles entende. Jésus parlait de Jean-Baptiste dans cette autre phrase. Si vous en voulez, il y en a encore. Mais moi, je suis toujours vraiment étonné de voir que des phrases aussi limpides et aussi évidentes ne soient pas aussi prises en considération. Quelque part, vous connaissez cette phrase célèbre de Jésus qui dit « Soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. » Voilà un objet de méditation tout à fait extraordinaire. Parce que de deux choses l'une, où Jésus ne connaît pas les hommes, et il s'imagine qu'ils vont être parfaits comme Dieu en une vie, ou bien Jésus ne connaît pas Dieu, et il se fait une piètre image de la perfection. Dans les deux cas, c'est complètement absurde. Dans les deux cas, si l'on a soi-même la moindre image de la perfection, de lumière, d'amour, de puissance de Dieu, on ne peut pas imaginer qu'en quelques années de vie terrestre, dans les conditions qui sont les nôtres, même dans les meilleures conditions qui soient, on puisse réaliser cette perfection, devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait. C'est donc bien que dans la culture dont on vient de parler, hébraïque, il supposait l'évolution de vie en vie. Dans la Genèse, Moïse, je vais retrouver le passage, parle de cette notion d'image et de ressemblance. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Dieu créa l'homme à son image il le créa. Quelque chose doit choquer. Vous avez entendu ce qui ne va pas ? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il termine, Dieu créa l'homme à son image il le créa. Et où est passée la ressemblance ? C'est Maître Ivanov qui a bien insisté là-dessus, et moi je ne l'ai lu nulle part ailleurs. Bon, les autres passages bibliques que je viens de citer, bon, beaucoup d'auteurs les ont retrouvés, mais là c'est un élément de plus, je crois. Il dit, sans doute Dieu avait-il l'intention de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire parfait comme lui, mais il ne l'a pas fait. Il l'a créé seulement à son image, c'est-à-dire avec les mêmes facultés, sans lui donner la plénitude de ses facultés, la ressemblance. La nuance est subtile, mais elle est importante, car quelque part, elle veut dire que nous sommes potentiellement divins, mais qu'on est loin de l'être. Regardez le gland d'un chêne. Il est à l'image de son père, le chêne, c'est-à-dire qu'il possède les mêmes possibilités, mais il ne lui ressemble pas. Il n'est pas encore comme le chêne. Il le deviendra seulement lorsqu'il sera planté et mis dans de bonnes conditions. Eh bien, l'homme est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il possède la sagesse, l'amour, la puissance, mais à un degré tellement minuscule en comparaison de la sagesse, l'amour et la puissance du Créateur. Mais un jour, par le temps, lorsqu'il se développera, il lui ressemblera, donc il possédera ses vertus en plénitude. Donc en bonne logique, vous le voyez, ce développement, le passage de l'image à la ressemblance, sous-entend la réincarnation. Dieu a dit, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, mais il ne l'a pas fait. Il a créé l'homme à son image il l'a créé. C'est dans l'absence du mot ressemblance et dans la répétition du mot image que Moïse a caché l'idée de la réincarnation. Mais les gens ne savent pas lire les livres. Et puis, mais je le garde un petit peu pour la fin parce que ce n'est pas un des meilleurs arguments. Je le donne quand même parce que certains auteurs pensent que c'est un argument très intéressant. C'est le passage qui fait dire à Nicodème qu'il ne comprend pas pourquoi, comment l'homme peut renaître. Lorsque Jésus dit en vérité, à moins de renaître, nul ne peut voir le royaume des cieux. Alors Nicodème, un peu naïf, dit, mais maître, comment un enfant pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère? Ce n'est pas possible. Et Jésus, qu'on imagine fatigué, comment? Tu es docteur en Israël et tu ignores ces choses. Enfin, dernière citation biblique que j'ai trouvée. Dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 13, on retrouve « Celui qui a emprisonné devra être emprisonné, et celui qui a tué par l'épée devra mourir par l'épée. » En écho à Matthieu 26, « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » Donc, les évangélistes, là, ont de toute évidence caché un code. Tout l'évangile est un modèle de méditation. Et si la méditation heurte la logique humaine, c'est qu'il faut faire éclater le système, il faut passer à un autre plan de conscience. Combien de personnes ont péché par l'épée et ne sont pas mortes par l'épée? C'est évident. À commencer par Jean, me direz-vous. qui a été décapité, Jean le Baptiste, et qui, bon, dans sa vie, apparemment, n'a pas été un violent, loin s'en faut. Par contre, si on remonte dans l'Ancien Testament et qu'on regarde comment a fini Élie, ah, il a bien fini, ça c'est sûr. Il a été transfiguré, il est monté aux cieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant la fin de sa vie? Il a dû faire une expérience tout à fait démonstrative, grande, grande magie blanche. Là, il a fallu qu'il démontre à tous les païens qui idolâtraient de faux dieux, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et de Moïse était le vrai Dieu. Et il a fait monter deux autels, vous le savez, il a demandé à ceux qui imploraient Baal, eh bien allez-y, priez Baal, et celui qui fera, qui amènera le feu sur cet autel sera le vrai Dieu. Et les groupes se sont mis à prier, il ne s'est rien passé, et Jésus et Élie, pardon, a donc créé un autel, il a mis de la... Il a creusé un fossé, il a mis des pierres, il a rempli les fossés d'eau et il a immolé un taureau sur les pierres et il a invoqué Dieu en disant, voilà, prouve-le, prouve ta grandeur à la face du monde. Et là, les textes disent que dans un vacarme étourdissant, tout a volé, tout a été transformé en feu. Mais non content d'avoir participé à cette preuve divine, Élie a quand même fait passer au couteau une bonne centaine des prêtres qui idolâtraient Baal. Ce qui veut dire qu'il a lui-même péché par l'épée et que dans l'incarnation suivante, il périt par l'épée. Alors, je laisse de côté un peu les Écritures. Je fais appel à une toute autre fonction qui est le bon sens qui observe la nature. Et l'analogie peut servir là d'outil pour démontrer aussi un peu les choses. Installez votre conscience donc dans un système qui le fait évoluer, qui l'élargit, ne serait-ce qu'en regardant un arbre. Le modèle de l'arbre, dans sa croissance, dans son dessèchement apparent, puis dans la nouvelle poussée des bourgeons, est une image vraiment parlante du recyclage de la vie, de la perpétuité de la vie. C'est peut-être Goethe qui a eu les plus belles paroles lorsqu'il a écrit « La métamorphose des plantes ». C'est un très beau livre, ça, de Goethe. C'est édité chez Triade, les éditions anthroposophiques. Et puis, l'exemple de l'arbre peut nous faire penser à simplement l'image de la molécule. Toutes les molécules sont soumises à des lois qu'en chimie on connaît bien, puisqu'on dit « rien ne se crée, rien ne se perd ». Or, vous savez que par une espèce de logique divine, les lois d'un certain plan se retrouvent au niveau d'un autre plan. Or, rien ne se crée, rien ne se perd, ce recyclage permanent de l'énergie, des molécules, dans leur mariage, dans leur divorce, peut-être un bon moyen aussi de réfléchir à notre recyclage en tant qu'être, en tant qu'âme. De même, enfin, que le cycle de l'eau, l'évaporation de l'eau, des océans qui passent dans l'air, qui passent dans le nuage, qui va redescendre en pluie ou en neige, qui va traverser les terres, qui va faire peut-être aussi des rivières, des fleuves, retourner à l'océan. Le voyage, le cycle de cette goutte d'eau est quelque chose qui peut faire écho à l'intérieur, je crois aussi. Et finalement, c'est le voyage initiatique de la goutte d'eau, car la goutte d'eau, elle gagne en conscience. Elle est toujours H2O, c'est sûr, du début à la fin. Mais regardez par où elle passe par la purification de l'évaporation, elle passe par tout un tas d'expériences, le contact avec des roches, elle va se colorer, elle va gagner en oligo-éléments, elle va peut-être être en contact avec des humains, avec des animaux, donc des informations qui vont l'ennoblir, l'enrichir. Et si c'est toujours H2O, c'est aussi un peu plus qu'H2O à la fin du cycle. Les recherches contemporaines vont nous aider à ouvrir maintenant un autre grand chapitre de notre soirée. J'ai essayé de collectionner des éléments de preuve, toujours, et il y en a un certain nombre. Le premier élément que tout le monde connaît, ça on est tous passés par là, c'est le sentiment du déjà-vu. Ce sentiment du déjà-vu qui fait qu'on arrive dans un certain lieu et quelque chose d'indéfinissable nous dit, ah ben tiens, j'ai l'impression d'être déjà venu ici, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et pendant un quart de seconde, on sait même ce qui va se passer dans les secondes qui suivent. Tout le monde a vécu ça. Goethe, Lamartine, Victor Hugo ont utilisé ça comme support de poésie aussi. Et si on rapproche cela des expériences qu'on fait faire aux enfants tibétains, c'est tout à fait ça. On cherche les expériences de déjà-vu aussi pour amener des faisceaux de preuves. Un peu à la manière de Bouddha qui disait « J'étais sur terre bien avant ma naissance et j'y serai longtemps après ma mort. » Deuxième élément, les dons. Les dons dont sont dotés certains enfants, certains adultes, certains adolescents. Les enfants prodiges, par exemple. Alors, on cite toujours Pascal, bien sûr, et Mozart, qui sont les deux plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Les bêtes à concours que l'on trouve aux jeux télévisés, et puis beaucoup de génies, beaucoup de grands poètes, beaucoup de savants, beaucoup de musiciens qui se retrouvent, comme Mozart, à 4 ans, en composant et en jouant des concerts. Ou comme Pascal, en redécouvrant les lois de Pythagore sans jamais avoir lu Pythagore. Et je crois que cet élément est intéressant. On a quelque part là des exemples. Dans son livre Les vies successives, le colonel de Rochas raconte le cas de la petite Nelly. Cette fillette, à l'âge de 9 ans, prétendait tout à coup, s'appeler Maria. Or, ce nom était celui d'un enfant du même couple, morte précédemment à l'âge de 15 ans. Nelly semblait être Maria réincarnée. Elle confirma cette hypothèse en reconnaissant l'ancienne école où allait Maria et retrouva spontanément les noms des personnes qu'elle ne connaissait pas mais que sa sœur avait fréquentées. De plus, elle fit des progrès foudroyants à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans, comme si elle avait profité du savoir de Maria. Elle retrouvait les objets que sa sœur avait cachés. Elle lisait ses lettres sans les ouvrir. Elle avait exactement les mêmes goûts, les mêmes défauts, les mêmes traits de caractère que Maria. Pourtant, Nelly ne ressemblait pas du tout à Maria physiquement. Deuxième exemple, la fille de l'officier. L'aventure survenue à un capitaine de l'armée italienne est de même nature. En garnison à Venise, cet officier perdit sa fille, âgée de 4 ans. Mutée plus tard à Naples, une nouvelle naissance vient égayer son foyer. Encore une fille. Et celle-ci, vers l'âge de 4 ans, se met à se comporter exactement comme la première et même à chanter spontanément une berceuse qui jadis endormait sa sœur et qu'elle ne connaissait absolument pas. L'histoire raconte aussi que deux mères aux Indes, un jeune garçon de 15 ans traverse une ville inconnue. Tout à coup, il a le sentiment de la reconnaissance des lieux et pour faire preuve à ses parents étonnés, il les guide dans les rues sans jamais se tromper. Il rencontre les commerçants qu'il salue par leur nom. Puis il montre au sien la maison où il a vécu auparavant. Et en entrant dans la maison, saute au cou d'une dame en l'appelant maman. Vous imaginez la tête de la mère. La femme, questionnée, reconnut qu'elle avait perdu effectivement un garçon de cet âge. Au discours tout joyeux que tenait l'enfant, en retrouvant son ancienne famille, le doute n'était plus permis. Il reconnut ses frères et sœurs et décrivit leur caractère. On se trouvait ici, une fois de plus, devant le cas d'une réincarnation rapide, comme cela se produit généralement pour des sujets qui meurent jeunes. Troisième faisceau d'arguments. La réincarnation physiquement démontrée par le docteur Stuart Edelstein, qui est passé sur les ondes dans une émission que vous connaissez sûrement qui s'appelle Demander la Lune, que je vous conseille, ça passe tous les mois, à une heure un petit peu tardive, mais c'est quand même une très très belle ouverture sur le plan de l'information au monde de l'invisible, disons. Eh bien, ce médecin a fait une thèse particulière sur les enfants d'une certaine tribu africaine qui sont marqués, en quelque sorte, dans un rituel particulier qui est de leur couper une phalange du petit doigt et que l'on retrouve dans la naissance suivante avec une phalange en moins. C'est un petit peu comme si on voulait marquer le Dalai Lama, si vous voulez être sûr que ce soit vraiment lui, hein, d'une façon physique. C'est tout à fait intéressant.